Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Thibert Vinck. Bonjour.
Bonjour.
Thibert Vinck, vous êtes responsable de l'herbier du Diwa, une entreprise de grossistes de plantes sous diverses utilisations, que ce soit aromatiques, médicinales, quoi d'autre ?
Des thés et des épices biologiques. Ouais.
Alors, c'est une entreprise qui existe depuis combien d'années et qui est située sur Châtillon, voilà, Châtillon-Diwa. Une entreprise qui existe depuis combien d'années ?
Eh bien, depuis la fin des années 70, cela a débuté par une exploitation agricole qui s'est transformée en structure commerciale en 83.
Ce sont des productions auxquelles vous tenez et qui soient issues de cultures biologiques et dans le respect de l'écologie, de l'environnement.
Oui, nous commercialisons donc des produits qui sont qui suivent le cahier des charges de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, nous avons donc des producteurs qui nous livrent leur matière dans le Diwa. Pour une trentaine de producteurs dans toute la France. Nous parlerons de plus de 300 producteurs différents. Et ensuite, nous importons de 49 pays différents dans le monde entier, surtout pour les thés, les épices et les plantes qui poussent bien loin de chez nous.
Vous parliez d'environ 300 producteurs au total sur la France, une trentaine dans le Diwa, ce qui représente combien de plantes différentes sur votre catalogue ?
Donc aujourd'hui, nous proposons autour de 350 variétés différentes que nous pouvons mettre à disposition sous différentes formes. Donc on a bien sûr la plante entière ou la feuille entière. Mais beaucoup de nos clients nous demandent de les couper pour avoir une coupe 1 cm, 5 mm. La coupe infusion qui est entre 1,5 et 800 microns. Et ensuite, on a aussi des clients qui souhaitent avoir de la poudre.
Ces divers aspects de présentation, donc ça peut contenter diverses entreprises par la suite, qui sont de quel ordre on parlerait, vous parlez de tisane, mais il y a aussi quoi ?
Donc nous, notre clientèle est majoritairement des industriels qui donc utilisent la plante comme un ingrédient, donc ça peut être culinaire ou aromate, donc essentiellement donc l'industrie agroalimentaire, que ça soit les infusions ou des matières qui rentrent dans des plats cuisinés ou des sauces ou des conserves. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est composée de compléments, on va dire alimentaires. Donc là, on livre des laboratoires qui vont faire des gélules. Voilà, et ensuite on a tout un pan, donc c'est plein de petits clients, c'est plus de 700 clients qui sont nous on appelle ça des détaillants, donc ça peut être des petits magasins, des herboristes, des pharmacies, des boulangers.
Comme surdit par exemple, on peut trouver à la Carline diverses productions de votre part.
Oui, on peut retrouver certains épices ou plantes à la Carline. Oui.
D'autres endroits
Alors, c'est assez rare, parce que finalement, nous n'avons pas de produit fini. Donc, nous, on peut livrer en vrac. Donc, majoritairement, nous livrons des entreprises qui, eux-mêmes, produisent leur produit fini avec leur propre marque.
Leur propre conditionnement. Donc, parce que vous êtes grossiste et donc, en général, vous nous fournissez pas moins des colis pas moins d'un kilo, hein, c'est ça ?
Oui, alors, notre conditionnement minimum, c'est un kilo. Donc, bon, ça a l'air pas grand-chose, mais il y a un kilo de verveine, ça commence déjà à prendre un peu de volume. Donc, mais majoritairement, on livre au sac, donc c'est à 15-20 kilos. Et on a voilà, des palettes entières, voire des camions complets qui partent chez nos clients.
Cette entreprise donc, qui est née dans les années 70 a évolué. Et il y a combien de personnes qui actuellement sont salariées ?
Donc cette année, on est un peu au-dessus de 70 personnes qui travaillent à l'herbier du Diwa, plus on va dire 3 personnes à l'exploitation agricole La Croix qui gère donc les plantations.
Vous vous chargez en fait de préparer cette production de l'état de naturel à l'état d'exploitation industrielle. Vous avez tout un tas de processus de transformation donc de ces plantes. C'est une activité qui prend combien de pourcentage sur cette gestion d'entreprise ?
Donc aujourd'hui, l'entreprise est composée donc de 50% de bureaucrates, de personnes qui sont donc au quotidien en train de faire du travail administratif. Donc ça, c'est toute la partie commerciale, achat, qualité et on va dire logistique, organisationnelle. Et ensuite, la deuxième partie, c'est du personnel qui est derrière des machines ou au conditionnement de la matière ou cariste. Voilà, et à l'exploitation agricole, là, nous avons des personnes qui gèrent de la plantation jusqu'à la récolte, la totalité de la matière, ce qui nous permet d'avoir toujours les pieds dans la terre et d'avoir vraiment une compréhension fine de la manière dont on doit produire. Et on peut aussi, comme ça, avoir des discussions, on va dire, d'égal à égal avec les producteurs qui doivent faire la même chose.
Chaque année, hormis celle de l'année précédente, nous recevions une personne de chez vous pour lancer une campagne de cueillette aussi sur le tilleul. Cette année, c'est aussi toujours en recherche de propriétaires avec des tilleuls.
Oui, donc en tout cas, l'activité autour du tilleul est une tradition chez nous. Ça fait des années et des années que nous commercialisons le tilleul des Baronnies, du Diwa et du Royan à différents clients à travers le monde. Et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux cueilleurs parce qu'au fur et à mesure des années, certaines personnes arrêtent car l'âge des cueilleurs est souvent assez élevé. Donc, on vient voir Radio Diwa chaque année pour essayer de rappeler que c'est une matière que nous cherchons. L'important, c'est qu'ils répondent au cahier des charges de l'agriculture biologique. Ça nécessite quelques démarches administratives. Donc, aujourd'hui, ma présence ici est plutôt pour discuter de la récolte de 2022, puisque toute la partie administrative doit être réalisée bien en amont pour que les organismes certificateurs puissent venir sur place et faire la vérification des arbres avant la cueillette.
Et ça prend donc administrativement, ça prend beaucoup de temps hein, pour mettre en place l'année suivante.
Alors, beaucoup de temps, ça prend du temps. Et oui, il y a des personnes qui sont dédiées à l'entreprise pour accompagner les cueilleurs et les agriculteurs dans ces démarches. Nous avons deux cas de figure. Nous avons les personnes qui ont leur parcelle déjà certifiée en agriculture biologique. Donc là, la démarche est plutôt assez simple. Il suffit de juste mentionner auprès du contrôleur la présence de ces arbres et que l'on souhaite commercialiser le tilleul. Dans le cas de figure, le second cas de figure, il s'agit de pouvoir demander à EcoCert une mention collective. Ceci se déroule avec finalement, le partenariat de l'entreprise, donc dans notre cas, l'herbier du Diwa, ferait certifier les arbres qu'on souhaiterait cueillir. Et dans ce cas-là, il faut donner suffisamment de temps à l'organisme pour s'organiser, pour venir contrôler la géographie et la bonne, le bon respect du cahier des charges.
Oui, voilà. Donc, des tilleuls qui ne soient pas à côté d'une autoroute, par exemple.
Oui, il y a plusieurs, aspects importants. Tout d'abord, il faut que la parcelle sur laquelle se trouvent les arbres ne soit pas cultivée en conventionnel, donc qu'il n'y ait pas d'ajout de, d'engrais chimiques ou de pesticides sous les arbres. Il faut aussi vérifier que le voisinage est sain. Donc, la pollution croisée peut être un problème. Donc oui, une grande route peut être un cas qui peut empêcher la certification des arbres. Et ensuite, il faut se rendre compte que le lieu où on va sécher le tilleul et la façon dont on va le conditionner et le transporter est tout aussi important pour vraiment s'assurer que lorsque nous allons faire une analyse pesticide pour vérification qu'il n'y a pas de pollution présente dans le tilleul, on ne trouve rien. Et donc, tout au long du cursus de la récolte, le séchage et le transport, il faut être très vigilant.
Le séchage est à la charge aussi du cueilleur ?
Alors, le séchage est réalisé par le cueilleur, oui.
Ce qui notifie donc une structure conforme à vos attentes ?
Alors, c'est pas une structure. C'est traditionnellement, le tilleul était séché sur des clés ou sur un plancher dans les granges, etc. Donc, l'important, c'est que ça soit très propre, qu'il n'y ait aucun risque non plus que des animaux puissent venir en contact avec la matière, que les matières qui soient en contact avec le tilleul soient exemptes de produits chimiques, donc faire attention que le bois ne soit pas traité, faire attention aussi, ce qu'on retrouve assez souvent, c'est que dans des fermes, il y ait de la morora et que forcément, ces petits animaux transportent régulièrement leur nourriture et donc on peut retrouver des graines dans le tilleul, ce qui nous pose vraiment des gros soucis, vous pouvez le comprendre d'un point de vue alimentaire. Il est vraiment important pour nous que la gestion du lieu de séchage soit minutieuse et adéquate.
Le tilleul, c'est une grosse activité pour l'herbier du Diwa. Il y en a d'autres similaires au niveau des végétaux ?
Alors, le tilleul a une place un peu particulière chez nous parce que c'est aussi le logo de l'entreprise. Donc, on a un lien qui est proche avec le tilleul. Mais l'herbier, forcément, commercialise un tas d'autres matières premières qui va forcément pour les gros volumes. Ce sont les plantes qui servent dans les tisanes majoritairement, donc comme le thym, la mélisse, les menthes, la camomille matricaire, pour les plantes les plus connues.
Si je comprends bien, le thym, par exemple, c'est une plante sauvage ou cultivée qui sont demandées aux cultivateurs ou aux cueilleurs. Et à savoir, si c'est sauvage, est-ce qu'il y a une maintenance de cette plante dans la nature de manière à pouvoir contenter chaque année une production ?
Donc, nous commercialisons du thym qui est cultivé majoritairement dans des parcelles, ce qui est aussi en agriculture biologique est un peu plus facile pour gérer les aléas du voisinage pour la certification bio. Mais nous commercialisons aussi une certaine quantité de thym sauvage récolté en France dans la garrigue. Donc ça nous arrive d'avoir les deux. C'est selon les plantes, on peut proposer Ben, c'est deux schémas de culture.
La lavande aussi, c'est une grande production dans le Diwa. Est-ce que vous proposez cette plante aussi ?
Donc, nous commercialisons aussi la fleur de lavande sèche du Diwa et des Baronnies et du sud de la France, va-t-on dire. Et donc, c'est une matière qui représente logiquement notre entreprise qui se situe dans un des grands bassins de production.
Donc, pour contenter ce rayonnement international de l'herbier du Diwa, je suppose qu'il y a une demande chaque année grandissante de clients. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez pouvoir subvenir ou du moins contenter les commandes ?
L'herbier du Diwa a depuis quasi sa création une progression qui est constante, qui est aussi entre les 8 et les 12%. C'est un rythme qu'on dira de croisière qui nous permet d'assimiler chaque année des nouveaux producteurs et de stimuler des nouveaux projets de plantation. Et en même temps, ça nous permet de garantir à nos clients un approvisionnement, on va dire, à 100%, bien que c'est utopique. Nous travaillons plutôt dans un rythme qui reste contrôlé afin d'éviter justement des pénuries ou des variations très importantes.
L'herbier du Diwa doit faire partie aussi d'un réseau d'entreprises, aussi d'une corporation qui permet justement de légiférer en quelque sorte sur les productions, ce qui est autorisé ou non, et d'être aussi vigilant face à certaines concurrences qui sont peut-être moins exigeantes dans la production, mais qui sont peut-être aussi imbattables au niveau des tarifs que certaines entreprises peuvent proposer par exemple.
Effectivement, nous travaillons dans un secteur où il y a une concurrence, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs, on est présent sur le marché international. Donc, on a des rivalités avec des pays multiples et variés. Notre stratégie, c'est de réussir à proposer des produits qui répondent au cahier des charges de l'agriculture biologique, mais pas seulement. Nous sommes certifiés équitable avec le FFL, le Fair for Life. Nous commercialisons aussi des produits qui sont certifiés Déméter. Nous sommes certifiés JAS pour le Japon, BioSuisse pour les clients en Suisse. Donc, on a multiplié un panel de critères qualité qui nous permettent de nous démarquer par rapport à certains concurrents. Mais le plus gros pays qui nous concurrence pour nous, c'est l'Allemagne, qui sont des grands faiseurs historiques dans la bio et d'autant plus dans les plantes aromatiques. C'est pour nous aussi une raison aussi d'essayer de chaque année de progresser, de trouver des outils industriels qui nous permettent de répondre de mieux en mieux aux exigences clients. Et on a la chance d'être dans un secteur qui est porteur depuis les années 2000. La France a beaucoup progressé de ce point de vue-là. L'offre de la bio et a pu suivre un marché qui est en croissance à deux chiffres quasiment chaque année. Et à nouveau, cette année très particulière nous a montré que on a eu la chance de pouvoir nous en sortir plutôt bien. Et on est bien content qu'on puisse, dans le Diwa, continuer à prospérer sur ce secteur.
Vous parlez donc de cette production destinée en tant que grossiste à des usines ou à de l'industrie, je veux dire plutôt. Est-ce que pour vous, il y a une satisfaction de voir que l'industrie, justement, s'amène dans une production dite bio et respectueuse de l'environnement ? Et quelles sont la plupart de ces entreprises ? Est-ce qu'elles ont elles-mêmes une renommée internationale ?
Oui, la majorité du temps, nos gros clients sont des clients qui sont bien plus gros que nous, qui ont un rayonnement bien plus important que l'herbier a. Dans notre raison d'être, c'était de développer l'agriculture biologique et notre territoire. Donc, on est fier que la démocratisation de la bio connaisse doucement un franc succès. Pour nous, c'est autant important que des gens qui vivent dans un territoire comme le Diwa ou la Drôme aient accès facilement à des produits de qualité, mais que ça puisse être vrai aussi pour des personnes qui sont moins proches de ces lieux de culture, comme un quartier quelconque d'une grande ville. Et pour nous, c'est le droit à manger sain et de qualité est quelque chose qui est important. Les clients donc en France, qui nous achètent sont des grandes marques comme Jardin Bio, Cook. À l'international, vous pouvez avoir Yogiti, vous pouvez avoir Lebensbaum, vous pouvez avoir Puka. Donc c'est très divers. Ce qui fait aussi la stabilité de l'entreprise et ce qui nous permet aussi d'être indépendant. Donc on est dans une situation où on a la chance de pouvoir décider nous-mêmes de notre futur. Bien sûr, on est chahuté constamment. Parce que, étant un fournisseur sous des grands acteurs, c'est pas toujours évident. Il faut essayer de suivre et réussir à répondre à leurs exigences et à leurs demandes. Mais d'un autre côté, on a la chance de toujours être maître de nos choix et de pouvoir dicter année après année une politique qui nous correspond.
Oui, vous parlez donc de ces grands groupes de distribution qui ont comme philosophie plutôt d'essayer de trouver les productions les moins chères, quitte à faire baisser les prix de production ou du producteur. Ça, c'est une vigilance sur laquelle vous avez l'œil.
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Nos clients, c'est... En tout cas, moi, je ne pourrais pas le dire.
Je reviendrai plutôt sur la grande distribution.
Une partie de nos clients vendent en grande distribution. Et oui, là, effectivement, la bataille est rude et ce n'est pas évident. Mais notre politique, c'est de quand même comprendre que 70% des Français achètent en grande surface et que, à nouveau, nous, ça nous semble important qu'un client de grande surface puisse avoir le choix et en même temps aussi que des sociétés françaises soient présentes dans ces grandes enseignes et que nous ne laissions pas que des multinationales proposer des produits biologiques dans ces endroits. Donc les clients que j'ai cités, c'est souvent des structures qui sont encore à taille familiale. C'est des gens où on connaît le responsable. Ils ne travaillent pas uniquement pour des actionnaires. On a encore la chance en France d'avoir des belles industries alimentaires et surtout dans la bio, je trouve, qui défendent des principes et des valeurs. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Bien sûr, le schéma de marché court, de la vente du champ directement au consommateur final est très attrayant et très beau. Mais il ne répond qu'à une certaine partie de la population qui a la possibilité d'avoir accès à ces marchés-là. Il faut aussi être conscient qu'on a besoin de metteurs en marché, de personnes qui développent des produits pour le plaisir des papilles des consommateurs. Et le partenariat avec beaucoup de nos clients est très satisfaisant. Bien sûr, il y a des semaines, des mois où c'est compliqué et qu'il y a des discussions de prix, de qualité. Mais pour le moment, sur les 40 ans, que l'herbier a connu, on peut se satisfaire d'une progression qui est non négligeable et qui a amené dans le Diwa des créations d'emplois, des producteurs ont pu s'installer, vendre leurs matières premières. Et si ça continue, c'est qu'à un moment, il y a un équilibre entre les matières qu'ils arrivent à fournir et le prix qui est convenable.
Est-ce que vous pourriez définir un peu ce qu'est l'aspect familial d'une exploitation face à une industrie d'exploitation ou alors d'agriculture intensive ? Est-ce que, par exemple, on peut envisager que l'agriculture intensive se penche sur un aspect plutôt bio, c'est-à-dire exempte de toute intervention chimique dans la culture ?
Alors, nous, en moyenne...
Et particulièrement sur le Diwa.
En moyenne, les agriculteurs qui nous fournissent, ils vont avoir une exploitation qui est aussi entre 2,5 hectares à 5 hectares. Donc, on est quand même dans une cible très de petits producteurs qui sont souvent qui ont plusieurs activités pluridisciplinaires. Donc, on n'est pas aujourd'hui, en tout cas dans notre domaine, on est peu confronté à des très grosses fermes industrialisées. Bien sûr, ça existe dans le monde, j'en ai visité, mais c'est vraiment pas notre cœur de métier. Nous, la plus grande exploitation agricole que je connaisse dans la Drôme qui nous fournit, elle doit faire une cinquantaine d'hectares en bio, mais c'est vraiment vu comme le grand du grand producteur de plantes aromatiques. Donc, c'est sûr que on est bien loin des grandes cultures céréalières, etc. Ce qui aussi est dû à notre spécificité, que la variété, le nombre de plantes que nous commercialisons est très large. Donc, on a une diversité qui est plus prononcée que dans d'autres domaines. Ce qui nous permet aussi de proposer aux producteurs des cultures différentes et aussi de pouvoir avoir des rotations et aussi de pouvoir gérer le risque, c'est de ne pas avoir les œufs dans le même panier et d'avoir aussi un étalement de l'activité professionnelle un peu plus large avec des cultures qui vont plutôt, par exemple, être précoces au printemps, puis d'autres qui vont être pendant l'été et on pourrait avoir un producteur qui fournit des racines qui sont à l'automne et ça permet d'avoir une activité qui s'étale sur 6 mois de l'année. Et ça a comme effet une grande variété de producteurs avec des casquettes bien différentes. Il y en a qui vont se spécialiser sur certaines plantes, d'autres sur d'autres. La difficulté pour ces gens-là, c'est plutôt l'aspect technique, c'est que chaque plantation va avoir un besoin mécanique un peu différent et donc il faut investir dans du matériel agricole divers et ça peut être un frein ou une difficulté qu'on peut rencontrer.
N'existe pas une sorte de mutualisation de ces outils, justement, pour plusieurs entreprises réunies, comme on pourrait le voir pour la vigne, par exemple, j'imagine.
Alors, ça existe, mais c'est pas toujours facile parce que la difficulté des agriculteurs, c'est que la météo dicte ses règles et que forcément, on a souvent besoin des mêmes choses au même moment. Donc, sur certaines machines, par exemple, l'herbier propose une récolteuse pour que les agriculteurs qui sont dans le Diwa n'aient pas forcément besoin d'investir dans cet outil-là. Mais sur d'autres outils comme les bineuses, les moments stratégiques du travail de la terre sont tellement importants qu'il est quand même beaucoup plus facile d'avoir son propre matériel. Mais il existe des agriculteurs qui sont en Cuma, qui partagent ainsi leur matériel pour planter ou pour passer la RC-tri ou des choses comme ça.
À ma connaissance, vous pourrez me corriger, c'est la part de culture biologique sur le Diwa, elle représente combien de pourcentage par rapport à la culture, l'agriculture en général ?
Alors, je ne saurais pas vous répondre exactement parce que chaque année, elle progresse. Donc, à Châtillon, à Diwa, on a passé facilement les 60, 60%. Donc après, c'est, je ne saurais dire les chiffres de 2021. En tout cas, la voix que veut porter l'herbier, c'est que nous, on n'est vraiment pas dans la stigmatisation. Il y a des choix de chaque agriculteur qui sont motivés par leur propre expérience, par l'histoire aussi de leur ferme. Nous-mêmes, on est tombé rapidement dans la voie de la bio. Et pour nous, on essaye de montrer un chemin, en tout cas différent. Mais en aucun cas, on ne veut juger ceux qui... peut-être ont besoin de plus de temps de voir les bénéfices que peut apporter cette agriculture-là. Et en même temps, on ne veut pas mettre de clivage. Nous, on croit fortement dans la bio. Les aspects écologiques nous semblent cruciaux, et d'autant plus aujourd'hui. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la collectivité, de l'urgence d'agir. Et l'herbier souhaite être un peu, comme il l'a été au début, pionnier dans les exploitations bio de la Drôme, souhaite aussi mettre en avant l'importance d'inculquer une énergie positive, que ce soit dans la bio, dans l'écologie et dans la prise de conscience des gestes quotidiens que nous faisons.
Est-ce qu'il y a aussi l'intérêt du gain pour des producteurs qui seraient aussi dans une optique d'acceptation sur la culture biologique ? Ce que je veux dire, est-ce qu'un agriculteur conventionnel pourrait, s'il y trouve son compte, peut-être plus facilement s'adapter aussi sur la culture bio ?
C'est forcément un des leviers important aujourd'hui pour venir à la bio. Il y a des personnes, il y a une vingtaine d'années ou il y a une trentaine d'années, qui ont fait le changement par conviction ou philosophie. Et aujourd'hui, l'aspect financier peut aider d'autres personnes à passer le cap. Parce que c'est un marché aujourd'hui où peut-être les marges ou la considération des clients finaux est peut-être un peu plus grande que dans le marché conventionnel. C'est un long chemin et une bataille de tous les jours. Parce que, comme je vous le disais, d'un point de vue technique, cela demande aussi de s'adapter, de réapprendre une façon de gérer ses terres. C'est pas donné à tout le monde. Et certaines personnes y trouvent un intérêt réel au quotidien, alors que d'autres personnes y voient surtout des difficultés supplémentaires, des obligations. La lutte contre la mauvaise herbe, c'est quelque chose.
L'abord de cette production à un public qui est somme toute assez limité, puisque c'est quand même une production assez chère ou un produit assez cher, est-ce qu'il y aurait à la longue une baisse de ces prix aussi si il y a une généralisation de ce type de culture?
Je ne sais pas si on peut dire que la bio est chère. Peut-être qu'elle est plus proche du vrai prix. C'est selon comment on y regarde. Forcément, on est passé d'un produit de niche à aujourd'hui une bio qui existe dans les rayons et qui va continuer à croître, me semble-t-il, dans les années à venir. Et on est forcé de constater que la bataille des prix va avoir lieu parce qu'il va y avoir de plus en plus d'acteurs. Il y a aussi une concentration des entreprises. Il y a des entreprises qui prennent du pouvoir, qui ont la capacité de maîtriser de plus en plus certains pans du marché. Donc, il est difficile de croire que le modèle économique du conventionnel ne soit pas copié un petit peu sur la bio. Mais d'un autre côté, moi, j'ai espoir parce qu'il reste énormément, en tout cas à ma connaissance, de belles entreprises qui défendent certaines visions de filières, de voilà, le commerce équitable, de prise en compte des différents acteurs tout au long de la filière d'un produit qui me semble encore sain et constructif pour l'avenir. Cela n'empêche que les clients finaux sont aussi demandeurs de prix raisonnables. Après, comme je l'ai dit au départ, est-ce qu'il ne faut pas aussi à un moment que le consommateur accepte de payer un certain prix pour avoir des belles matières dans son assiette ou dans son verre? Et donc ça, il va falloir trouver un équilibre assez juste dans les années à venir.
Une journée, une question globale, c'est par rapport au réchauffement climatique. Est-ce que cela perturbe aussi la production dite de produits bio et notamment dans le Diwa? Est-ce que chaque année, la production se maintient ou alors il peut y avoir des difficultés de sécheresse, par exemple?
Alors, les aléas climatiques, bien sûr, les agriculteurs le vivent. La prise de conscience des effets néfastes de l'humain sur notre planète, moi-même, j'en suis convaincu. Il me semble surtout important d'y répondre par des propositions tenables et qu'on puisse multiplier. Donc, l'entreprise L'Herbier se bat au quotidien, en tout cas pour essayer de rendre véridiques nos idées à travers des investissements et des actions qui peuvent aller dans ce sens-là. Mais c'est évident que tout doucement, on voit dans la lecture des récoltes successives qu'il y a des changements. Alors, c'est sûr que ça ne se voit pas d'année en année, ça se voit plutôt sur des dizaines d'années. Mais le problème de l'eau va être de plus en plus important dans les années à venir dans le sud de la France, il ne faut pas se leurrer. Mais on a des producteurs au nord qui ont déjà aussi des difficultés. Ils n'ont jamais eu besoin d'arroser jusqu'à présent, et voilà, ils commencent à avoir certaines années où sans arrosage, leurs cultures ne sont pas viables. Donc, il va falloir s'adapter. Et je souhaite surtout que chacun, à notre mesure, on soit capable d'agir pour essayer de ralentir ou d'agir face à cette problématique.
Justement, il me semble qu'il y a des collectivités qui sont sur la gestion de l'eau, qui œuvrent sur la gestion de l'eau, et celle de pluie aussi, notamment en agriculture. Il y a une association à Saint-Julien-en-Quin, je crois, qui étudie justement la topographie d'un terrain, et de manière aussi à pouvoir constituer une gestion logistique de l'eau, de manière à pouvoir contenter un maximum d'arrosage sur une année, le plus longtemps possible sur une année. Est-ce que, à votre connaissance, vous avez entendu en tant qu'entreprise cette problématique de gestion de l'eau prise en charge par des collectivités ou de manière à produire une nouvelle politique de gestion de l'eau?
C'est une problématique qui est de plus en plus présente et que dans la gestion de différents systèmes d'arrosage, hein, les canaux qui sont mis en place dans le Diwa, des associations gèrent ces cours d'eau. Donc ces discussions sont de plus en plus présentes. La réglementation est aussi de plus en plus restrictive. Et on va devoir s'adapter. Il y a certainement des grands bouleversements qui nous attendent. Donc les uns et les autres doivent bien réfléchir sur la façon ou les variétés dont on va produire demain. Cette année, en tout cas, on a un printemps plutôt très souriant d'un point de vue de l'eau, qui est une bonne chose pour, voilà, pour les réserves hydriques. Par contre, il a fait froid. Donc, on voit bien que c'est, voilà, c'est jamais facile d'avoir tout réunis au même moment. Et donc, c'est là où c'est la difficulté de la production s'adapter à la nature.
À l'exemple des vergers et de certains vignobles qui ont souffert du gel à ce printemps, est-ce que certaines plantes ont elles-mêmes souffert au niveau de ce que vous proposez ?
Bien sûr, oui. Mais oui, on a des plantations qui ont souffert. Après, c'est là où nous, je répète, l'importance d'avoir une certaine diversification sur l'exploitation agricole pour pouvoir profiter chaque année, espérer qu'une des cultures ressorte, voilà, et réunit les meilleurs avantages pour avoir une belle production et les autres seront peut-être un peu moindres. En tout cas, c'est notre politique pour réussir à faire traverser les années sans trop d'encombre aux agriculteurs.
Pour les personnes qui souhaiteraient se faire connaître en tant que cueilleur ou du moins propriétaire de plantes qui seraient intéressées de participer à votre entreprise, il y a un site internet, j'imagine, et peut-être là, les personnes peuvent se renseigner sur les propositions de ou les demandes de production, par exemple.
Oui, sur notre site internet de l'entreprise, l'herbier du Diwa, vous pouvez retrouver des onglets où on donne des informations déjà pour informer les futurs producteurs qui souhaiteraient créer un partenariat avec nous. De la même façon, pour les cueilleurs, il y a déjà des réponses aux questions principales. Et les numéros de téléphone sont indiqués aussi si vous voulez contacter des agronomes qui puissent vous conseiller ou vous accompagner dans vos démarches.
Eh bien, Thibert Vinck, je vous remercie d'être venu sur Air Diwa pour nous parler de l'herbier du Diwa et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci bien. Bonne journée à vous.
Thank you.